La dernière fois que j'étais là, c'était en 2008. On avait fait un week-end de jeûne. Donc il y a quelques visages qui sont toujours là, je les reconnais. Après, je ne me souviens pas de chacun dans l'église, mais ce qui est touchant à chaque fois qu'on vient, c'est qu'on se sent à la maison. Alors c'est vrai qu'il y a Cathy et Sam qui sont des amis et qui m'accueillent. Mais même au niveau du culte et au niveau de l'église, c'est toujours encourageant d'arriver, de voir des sourires et des gens qui se rappellent de vous. Et on dit c'est la maison de Dieu et on se sent du coup aussi chez nous. Alors, je prophétise pas forcément en disant ça, c'est juste une observation. Mais vous êtes vraiment comme une famille chaleureuse et on se sent toujours accueillis. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon mari, Alex. Et voilà, on va faire une petite présentation ensemble. Au début, ça va être surtout un peu de l'information pour présenter ce qu'on fait. Je pense en 2008, j'en avais parlé assez rapidement et puis après, j'avais pas forcément bien suivi avec les lettres de nouvelles. Mais maintenant, on va faire tout notre possible pour donner un maximum de nouvelles et bien présenter le projet. Surtout qu'il y a un peu quelques modifications, parce que moi, ça fait 3 ans et demi que je suis au Sénégal, mais maintenant, on a vraiment un projet à deux. Donc, la vision est un peu nouvelle. Et voilà, on va partager ça ensemble. Et on vous propose juste de commencer par un petit diaporama photo qui présente le Sénégal. Alors c'était un peu difficile de choisir les photos parce qu'on voulait montrer quand même le côté positif du Sénégal, parce que trop souvent quand on montre des missions en Afrique, on montre les enfants malnutris, ceux qui ont faim et la misère. Donc on a essayé quand même de montrer le côté positif, parce que le Sénégal est quand même un pays qui est en train de bien se développer, notamment au niveau des grandes villes. Donc on a envie aussi de vous donner envie d'y aller et de venir nous voir. Voilà. Et la musique en fond, c'est Diarama, je pense que c'est ça, ça veut dire la paix, en Wolof. Et c'est fait par un des amis qui était avec nous dans la mission avant. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de bonjour avant qu'on mette le film.
Ok, bonjour à tous. C'est avec une très grande joie que je suis là ce matin avec vous. Claudine m'a longtemps parlé de Aubergenville, de l'église. Et par rapport à Sam et Cathy aussi, et Florence, qui nous a accueillis à l'aéroport, tout et tout. Et c'était vraiment une très grande joie pour moi d'être là ce matin. Et franchement, je me sens comme chez moi. Tout de suite, lorsqu'on accueille les invités, tout et tout, j'ai tourné vers ma femme et je lui ai dit, ah, on dirait on est à Kerdiam. Il m'a dit, ah bon? Oui, je lui ai dit, Kerdiam, c'est-à-dire maison de paix en Olof, c'est mon église au Sénégal. On accueille de la même manière, on applaudit les gens, tout et tout. Et j'ai dit, waouh, super, je suis très content d'être là. Et on va vous présenter le Sénégal. C'est bon.
Signor Bull, signor Gannon.
J'ai attendu les deux secondes. Bon, c'était juste faire voyager un petit peu. On n'a pas fait de commentaires sur les photos, c'est un peu volontaire, parce que sinon, on est capable de parler pendant 2 heures. Donc, voilà, on va juste... 2 photos de nous, en Afrique. Je sais qu'ici, vous nous connaissez, on a l'occasion de passer dans des églises qui ne nous connaissent pas plus que ça. C'est pour ça qu'on a cette petite présentation. Donc, Alex, 28 ans, qui est sénégalais, et puis moi, qui ai 27 ans et qui suis française. On a mis les formations, souvent les gens nous demandent. Après, on ne travaille pas forcément dans ces domaines-là au Sénégal. Alex a une formation en logistique et moi en socio-économie. Et je vais donner la parole à Alex.
Ok, là vous voyez la carte du Sénégal. Et le Sénégal est un pays qui est complètement à l'extrême ouest du continent africain. Et on peut dire que c'est un tiers de la France. C'est pas un très petit pays, ni un grand pays, mais c'est un peu moins. Et nous, nous nous trouvons juste au bout, au niveau de Dakar, la région. Ouais, on peut juste continuer, diapo. Ok, on continue. Et le Sénégal, en quelques chiffres, vous le voyez, c'est... Il fait 12 millions d'habitants, dont 3 millions à Dakar. Dakar est le plus petit région, mais plus d'habitants encore. Oui. Et on a 85% de musulmans. Il y en a des discussions encore. Il y a d'autres qui disent 95, il y a d'autres qui disent 92. C'est à revoir. Et on a 55% des enfants atteints le CM2. C'est un peu difficile côté éducation, on va en revenir après quelques temps. Et 57 à 59 ans, l'espérance de vie, c'est-à-dire 57 pour les hommes et 59 pour les femmes. 35% savent lire et écrire. Donc c'est un peu difficile parce que c'est une population analphabète et souvent partager la parole à quelqu'un qui n'a pas du tout étudié, c'est un peu difficile. Donc j'ai béni Dieu pour la CIL, Société Linguistique, qui est en train de développer des mégaphones, disons, oui, la Bible orale. Et on permet aux gens de l'écouter avec leur langue nationale. Et c'est vraiment important. Et je bénis Dieu pour ça. L'éducation, l'alphabétisation, oui, il y en a beaucoup à faire aussi. Comme je viens de le dire, il n'y a pas l'éducation, ça reste beaucoup à faire. Santé et prévention, tout est axé sur Dakar. Au niveau des autres régions, ils n'ont pas les moyens de bord pour démarrer. Donc on voit des cas critiques parfois et qui ont besoin des interventions rapides. Et parfois en Bénidjé, il y a des églises américaines ou brésiliennes qui nous envoient quelques chirurgiens qui viennent bénévoles pour intervenir et franchement c'est encourageant. Équité face à la corruption, bon, là on sait ce qui se passe, j'ai pas besoin de bien développer, c'est de la tête. Lutte contre le fatalisme, ouais, ça aussi c'est un grand problème. Ça dépend de Dieu. Inch'Allah, tout le temps, bon, Inch'Allah, ça va aller. Bon, le fatalisme est au haut niveau. Bon, les gens croient que si je fais un accident, c'est la volonté de Dieu. Si je tombe, c'est la volonté de Dieu. Et c'est un peu difficile, parfois. Parce que même, ils te disent, bon, même le salut, c'est la volonté de Dieu, au fait. Tu peux vivre et mourir et demain aller en enfer, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide, tu n'es pas rien toi. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé toi. C'est Dieu seul qui sait. Donc c'est un peu difficile de leur faire comprendre que non, c'est pas ça du tout. C'est à cause du fatalisme et du manque d'éducation. Finance et pauvreté, ouais, il est classé dans les pays, disons, en voie de développement. Et si on le compare quand même à beaucoup de pays de la sous-région, le Sénégal est quand même développé, disons, parce que c'est encore pire au Mali, en Guinée-Bissau, vraiment on bénit Dieu. on arrive à s'en sortir, sauf au niveau des villages où c'est un peu critique. Bon, Jeunesse en Mission, je passe à ma femme.
Donc on est au Sénégal et on travaille avec Jeunesse en Mission. Donc Alex, ça fait 6 mois maintenant qu'il est avec Jeunesse en Mission et moi ça fait 3 ans et demi. Le jaune ressort pas trop du coup, mais bon, on va lire. C'est une organisation chrétienne qui offre aux jeunes des possibilités d'engagement et de service en fonction de leur appel et de leur vision, avec un slogan, connaître Dieu et le faire connaître. Donc je sais qu'il y a déjà plusieurs jeunes qui sont passés à JEM, soit pour des courts termes ou pour des écoles, et que vous connaissez un peu le système. Et toujours avec le verset clé qui revient, dans Matthieu 28, 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et l'idée qui ressort vraiment, c'est faire des disciples. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de se limiter à l'évangélisation, mais on va surtout travailler dans la formation des chrétiens. Oui. Tu peux passer. Voilà. Donc, Jeunesse en Mission au Sénégal, on a 3 bases. On a une base qui est à Dakar, qui a un ministère dans la santé, en fait, un hôpital qui avait été implanté par l'anastasiste quand il était passé. Et donc il y a toujours des équipes qui travaillent là-bas, et qui accueillent entre 100 et 150 malades par jour, et qui a 3 dentistes aussi à disposition. Donc imaginez qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est là, en tout cas pour les dentistes, parce que je crois que c'est 1 pour 50 ou 55 000 personnes au Sénégal. Et donc il y a les 3 dentistes qui soignent, et puis après il y a toujours des assistants qui sont à côté, qui sont là juste pour arracher les dents. Donc les arracheurs de dents, il y en a 10 dizaines. Ensuite, à Fatick, c'est un peu plus au sud, c'est dans une région qui est très aride et très difficile à vivre parce que même si vous voulez boire de l'eau fraîche, vous n'êtes jamais désaltéré parce que l'eau est salée. Donc l'équipe qui est là-bas a beaucoup de courage et ils travaillent dans l'implantation d'églises. Ils ont des écoles de disciples chaque 2 ans et en fait, sinon ils essayent toujours de faire du suivi. Et ensuite, à Sangalkam, donc c'est là où nous on est, c'est le ministère dans la santé et la formation des chrétiens. Donc sur la carte, vous avez la flèche qui va. On n'est pas très loin de Dakar, c'est 50 km. Mais avec les transports en commun, s'il y a des bouchons, ça peut être 2h30, 3h de route pour aller en centre-ville. Voilà. Donc les 3 grandes activités, on a le poste de santé, donc vous pouvez le voir sur la droite. Là, il y avait des tentes devant, c'était le jour de l'inauguration. Ça a été inauguré fin 2008. Et ça a été financé par l'ambassade du Japon. Tu as entendu parler un peu par-ci, par-là. Que nous, on voulait construire un poste de santé. Et donc, ils sont venus et ils ont vu le projet. Et donc, ils ont libéré l'équivalent de 15 000 euros pour qu'on puisse construire le poste de santé. Et là, donc, l'ambassadeur est venu il y a... C'était au mois de mai. Donc, ils vérifient un peu tous les projets. Parce qu'après, ils ont toute une équipe d'experts qui vient du Japon pour vérifier le travail. Et notre projet était retenu comme projet de témoin de tous les projets financés par l'ambassade du Japon les 5 dernières années. Parce qu'il a entretenu, parce que les peintures sont refaites, parce que l'équipe accueille. Donc c'était vraiment la grâce de Dieu, on a vu la main de Dieu là-dessus. Et donc le matin, il y a des consultations entre 50 et 60 malades. Et certains jours, il y a des pansements à faire. Et une fois par semaine, le lundi, on a un médecin spécialiste qui vient d'une autre ville aussi. Donc là, si on a des cas plus particuliers, on leur donne rendez-vous le lundi. Et l'après-midi, donc, on a les visites aux malades, donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et souvent, c'est des gens avec qui on fait un suivi. Et puis, bon, sur la photo, tout à gauche, donc c'est Michael, après on a Medina et Binta. Ce sont les 3 personnes qui travaillent dans notre poste de santé. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que des Brésiliens, et maintenant, on a des locaux. Et une qui était missionnaire et qui a quitté cette année, et les 2 autres qui sont salariés. Et c'est autofinancé, en fait. Le poste de santé arrive à s'autofinancer, tout en étant abordable pour les populations locales. Oui, on peut mettre l'autre. Donc l'élevage et l'agriculture, ça c'est un de nos projets. On a toujours un peu du mal à le mettre en place parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc s'il y a des professionnels dans la salle qui ont toujours des bons conseils à donner, on peut rester en contact aussi. Donc on a un élevage de 600 poulets. On prend les poussins quand ils ont 1 jour et on les tue quand ils ont 45 jours. On les nettoie et puis on les vend. Et puis donc à droite, on peut voir notre jardin avec tous les débuts. Donc cette année, on a eu plein de tomates, de navets, de poivrons et d'aubergines. Et ça aide forcément avec les finances de la mission. Et le but, c'est à chaque fois aussi un peu de susciter des fonds pour pouvoir avoir plus de construction sur la mission. Parce qu'il n'y a pas de soutien direct pour la mission. Jeunesse en Mission, c'est un système de cotisation. Chaque mois, on met un peu. Donc des fois, ça ne suffit pas pour avoir des constructions. Donc on essaie un peu d'avoir des bénéfices et pouvoir grandir comme ça. Et oops, juste sur la photo à droite, les deux qui travaillent, ce sont deux salariés. Il y a Vieux qui est maçon et Moussa qui est le jardinier. Et ce sont deux anciens musulmans et qui se sont convertis, un l'année dernière et un cette année. Et ça, c'est un grand sujet de prière, surtout pour Moussa. Il est d'une ethnie Peul, où les gens sont vraiment radicaux. Et on sent déjà que par tous les jardiniers qui sont autour, ils commencent à être mis à part. Et maintenant, il habite avec nous, il ne veut même plus retourner dans sa famille au village. Donc, Moussa. Voilà. Jemaa Sangalkam, la formation, notre vision. Donc, nous, on travaille plus dans ce domaine-là. La santé, l'élevage, l'agriculture, on est ensemble, mais on ne travaille pas directement. Donc la première partie, ce sont les écoles de disciples qui ont lieu chaque année de janvier à juin. Donc c'est le programme de 6 mois, 3 mois enseignement, 3 mois pratique. Écouter Dieu, le caractère de Dieu, la vie de disciple, le pardon. Et après, donc on a 3 mois de phase pratique. Et là, ça dépend vraiment des éléments qu'on a dans l'équipe et de ce qu'on voit dans les 3 premiers mois. Des fois, on peut faire beaucoup de porte à porte. Si on a des personnes plutôt introverties, on va plus travailler avec les églises. Cette année, ils ont eu l'occasion d'aller faire des visites en prison. Notamment l'équipe des filles, ils ont pu témoigner avec les femmes et ils ont pu prier pour les femmes en prison. Donc ça, c'était nouveau pour nous au Sénégal, donc c'était super. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce programme et que nous on aime, c'est qu'on peut travailler avec les gens. Et ce qu'on veut créer de plus en plus, c'est un endroit où on peut être vulnérable, entre guillemets, pour les personnes qui viennent. Alors c'est toujours un défi parce qu'on arrive, on a finalement que 6 mois. Pour que les personnes soient à l'aise et qu'elles puissent vraiment se confier. Mais c'est un objectif qu'on a, parce que nous-mêmes, en fait, dans nos écoles, on a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Donc je fais une parenthèse, un peu témoignage. Sur mon école, donc c'était en 2007, il y a 3 ans déjà. Et une, je pense, des grandes choses que j'ai vécues dans ma relation avec Dieu, c'était de réaliser que Dieu n'était pas en colère contre moi. Alors juste comme ça, on peut dire, c'est bizarre, pourquoi Dieu serait en colère ? Parce que c'est jamais quelque chose qu'on m'a enseigné à l'église. Pourtant, j'ai grandi dans l'église, je me suis convertie. Et pourtant, j'avais cette conception-là enfouie quelque part au fond de moi. Et puis, à un moment, on a eu un cours sur la sanctification et l'orateur a juste parlé qu'il n'y avait pas de condamnation. Et ce jour-là, ça a fait tilt dans ma tête. Pourtant, je suis sûre que je l'avais entendu des dizaines de fois, comme beaucoup de choses qu'on entend dans l'église. Mais Dieu avait décidé que ça serait à ce moment-là que ça allait changer ma vie. Et... jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi j'ai cru que Dieu était en colère contre moi. Mais ce que j'ai compris, c'est que je ne connaissais pas vraiment Dieu. Et qu'en fait, la clé dans la vie chrétienne, comme ça a été dit ce matin dans une des images, c'est de connaître Dieu. Et que le meilleur moyen d'entendre Dieu, en fait, c'est de connaître son caractère. Et à ce moment-là, la révélation, c'était vraiment, Dieu n'est pas quelqu'un qui est en colère pour rien, comme ça. Dieu, il n'est pas en colère. Alors ça a chamboulé un peu des choses dans ma vie, parce que ça fait réaliser beaucoup sur la grâce de Dieu, le fait que Dieu nous accepte sans condition, et que le sacrifice de Jésus est gratuit. Pourtant, ça, je l'avais déjà compris avant. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on se méprend sur le caractère de Dieu, ça doit aussi nous amener à la repentance. Et j'avais jamais vu ça comme ça, qu'en fait, mal connaître Dieu, ça nous amène d'un certain sens à pécher. Et le fait de croire que Dieu était en colère, en fait, c'était un peu un péché quand même. Parce que je ne le connaissais pas bien et je le prenais pour qui il n'était pas. Et ça, ça a été une clé dans ma relation avec Dieu, parce que maintenant, ça fonctionne assez souvent comme ça. Je crois que Dieu est comme ça, mais j'ai besoin de m'humilier parce que sûrement il n'est pas comme ça aussi. Et je pense qu'on a tous cette démarche à avoir avec Dieu. Qui tu es ? Qui tu es pour moi ? Et les fois où on peut avoir des périodes difficiles, je sais que par exemple, moi j'ai un caractère assez sensible et très vite je peux tourner un peu à la dépression et la déprime et tout ça. Et je dois faire attention aussi de bien connaître la joie de Dieu et de toujours revenir à cette idée que Dieu il n'est pas en colère et Dieu il n'est pas triste et Dieu il se réjouit avec moi. Et le fait de comprendre que Dieu se réjouit avec moi me donne la joie. Et de penser le contraire finalement, ça doit nous amener aussi à la repentance et à l'humiliation devant Dieu. C'est peut-être une parole personnelle, je ne sais pas pour quelqu'un ce matin, mais mal connaître Dieu doit nous amener vraiment à l'humilité, à nous humilier que, Seigneur, là vraiment j'ai mal fait parce que j'ai cru que tu étais quelqu'un en fait que tu n'es pas. Et après, donc Dieu a beaucoup agi dans mon identité et il continue à le faire, parce que chaque année on refait le même processus, on a à nouveau les enseignements, donc... et même au cours des méditations et de la relation avec Dieu, c'est beaucoup plus posé, je dirais. De ne pas faire les choses par intérêt, mais de vraiment les faire par amour pour Dieu, par relation avec lui. Je vous invite simplement à faire ça, si vous avez l'impression qu'il y a un blocage quelque part dans votre vie. Peut-être il y a un certain côté où en fait on a une mauvaise image de Dieu. Donc voilà un peu. Et je pense qu'Alex aussi a un petit témoignage à donner.
Bon, moi, spécialement, ce qui m'a le plus touché durant mon école de disciples, c'était... Je ne me rendais pas compte que je n'avais pas pardonné mon père au-dedans de moi. Et je vivais dans l'église, je ne me rendais pas compte du tout. Mais arrivé à l'école, on a lancé un peu le sujet. Et j'étais là, je me disais, mais c'est bizarre, mais je sentais comme de la haine au-dedans de moi. Bon, mon père était quelqu'un de très dur en éducation. Il a toujours tapé tout le monde à la maison, c'est-à-dire s'il rentrait à la maison, bon, personne n'osait le toucher comme ça. C'est-à-dire déjà depuis l'âge de 12 ans, tu n'osais même pas te mettre sur ses genoux, tout et tout. Donc du coup, ça m'a vraiment blessé, je ne sais pas mes frères par rapport à eux. J'aimerais vraiment leur en parler lorsque je vais retourner, peut-être on va avoir une discussion en famille. Mais j'étais quand même un peu surpris, j'ai beaucoup pleuré durant mon école. Et vraiment, ils ont touché le sujet et je me suis rendu compte que je n'avais pas pardonné mon père au-dedans de moi. C'était vraiment dur pour moi. Et je me disais, mais c'est bizarre, pourtant j'étais à l'église, tout allait bien, je louais Dieu, tout et tout, mais je me rendais compte au fond de moi, c'était vraiment difficile. Et cette semaine a été vraiment difficile. J'avais tout le temps mal au cœur. Il fallait que je libère le pardon pour vraiment me sentir libre. Et j'ai béni Dieu, il m'a permis de libérer ça. Et je me suis vraiment senti libre. Et je ne lui en veux pas. Parce que parfois, on ne connaît pas. Et pourtant, parfois, je prenais Dieu de la même manière que mon père, quoi. Il était dur. C'est-à-dire, je n'osais pas tourner à gauche ni à droite. Pour moi, c'était la même chose, quoi. Parce qu'on disait que Dieu est père, amour, tout et tout. Et il m'était difficile de voir ce père-là en lui. Et je bénis Dieu, il a pu réparer ce caractère-là en moi. Et vraiment, je bénis Dieu. Jusque-là, même pour me sentir en assurance, c'était un peu difficile pour moi durant toutes mes études parce que c'était vraiment une éducation dure. Bon, je ne lui en veux pas, comme je viens de dire. Lui aussi, il a eu cette éducation parce qu'on se dit que père, pour être un homme, il faut te booster. Pour l'éducation, c'est donner à manger. Et c'est bon, on n'a pas besoin de petits câlins, de tendresse, d'amour. C'est-à-dire ça ne se fait pas, on ne connaît pas ça. C'est-à-dire ils ne savent pas comment démontrer cet amour. Et c'était, pour moi, c'était dur, mais je bénis Dieu. Merci.
Voilà, on aurait pu choisir des témoignages d'étudiants de cette année, mais on s'est dit, comme le but aussi c'est de nous connaître, on va partager un peu sur nous. Et c'est justement parce qu'on a vécu ces expériences-là qu'on a envie de créer un climat où les gens aussi peuvent connaître Dieu, connaître le cœur du Père et avoir des moments de pardon et de réconciliation. Et chaque année, on travaille avec des gens et c'est des témoignages de vie qui sont énormes. Et cette année encore, je suis arrivée à la fin de l'école de disciples et j'ai dit, mais Seigneur, je suis qui pour que tu me permettes de travailler là? Parce que Dieu agit vraiment au-delà de tout ce qu'on espère et on sait aussi qu'il y a des gens qui prient derrière et qui intercèdent pour les étudiants. Et ça, c'est super. Donc juste par rapport aux photos, en bas au milieu, vous avez notre salle de classe. En bas à droite, donc c'était pendant mon école, quand on partait en évangélisation. Et puis tout en haut à gauche, c'était la promotion de la dernière école, le jour de la remise des diplômes. C'est un peu sombre. Mais... Voilà, on peut changer. Voilà, une deuxième partie de notre vision, ce sont les écoles de musique et les écoles de louange.
Je vais en parler un peu parce que c'est ma vision. Bon, les écoles de formation de louange et de disciples. Plutôt les écoles de formation de louange. Bon, je ne sais pas comment... Dakar, par rapport à l'évangile, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, moi j'étais catholique avant de me convertir à l'évangélisme. Bon, J'étais un peu surpris parce que le catholicisme à Dakar est différent du catholicisme en France. J'étais quand même un peu surpris. Parce qu'au Sénégal, c'est un catholicisme qui continue à porter des gris-gris. Tu as un petit canari à la maison et tu continues à faire les fétiches. C'est la même chose. Donc c'est difficile de les enlever de l'animisme. Donc du coup, c'est ici que j'ai compris que le catholicisme peut signifier autre chose que ça. J'ai été vraiment touché. Et l'école de louange, c'est des écoles de formation pour un peu développer le niveau de la louange au Sénégal. Développer, c'est trop dire, je veux dire, augmenter quelque chose de plus. Parce que en général, on a des étudiants qui nous viennent des autres pays. Parce que le réveil est là-bas, par exemple en Côte d'Ivoire, Congo, ils ont connu le réveil et ils ont plus de chrétiens que les Sénégalais en tant que tel. De ce fait, la plupart des églises est remplie d'étrangers au fait. Et ce qui est bien, ils nous amènent tous leurs chants et c'est vraiment très important. Mais si tu demandes à un Sénégalais d'or, c'est-à-dire c'est quelle église va te dire, bon, c'est une église nigérienne ou c'est une église congolaise ou bien, et ils n'arrivent pas à s'identifier en tant que tel. Donc mon objectif est un peu d'amener des chants wolof. Je ne dis pas d'aller et de ramasser tout comme si c'était pas bon, non, c'était très bien. Franchement, les chants nigériens, congolais, moi, ça me bénit beaucoup. Mais je pense que pour permettre à un Sénégalais de s'identifier dans la louange, il faut quelques chants en wolof au moins, au niveau des cultes, pour lui permettre de s'identifier et se dire, ah, c'est les gens de mon pays, donc, je comprends. Mais le Sénégal est un peu méfiant sur ce fait. Au fait, il se dit, bon, non, ça ne vient pas de nous. C'est les étrangers, quoi. Et au fait, ils sont méfiants. Donc, l'objectif est un peu de former des musiciens. On était à Ziguinchor pour faire un séminaire de louange et d'adoration. C'est le sud un peu du Sénégal, à Ziguinchor. Donc, on était un peu surpris. On a lancé le projet pour faire un atelier d'une semaine. Et là, on a envoyé les lettres, tout et tout. Et il y avait une masse qui avait répondu. Ils sont venus. Mais ce qui m'a choqué un peu, tu vois des églises où il y a tout le matériel, piano, tout, mais il n'y a personne pour jouer. Je les ai dit, mais donc comment vous faites les dimanches? Ils m'ont dit, bon, on tape les mains et le pasteur appelle une fille dans l'assemblée, il va chanter et c'est bon, on retourne. J'ai dit, bon, écoutez, il faut qu'on voie comment on peut organiser ça en quelque sorte pour aider un peu les églises à se faire former. Parce que d'habitude, les étudiants, quand ils viennent, ils n'ont pas du tout de temps. C'est des bons musiciens congolais, bons musiciens nigériens, mais ils viennent, ils n'investissent pas au fait. Ils sont pris par les études, donc ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc du coup, c'est un peu difficile. C'est en tout cas la vision que j'ai à cœur, de former un peu les locaux pour un relève demain, afin que l'Église puisse s'identifier. Ok.
Voilà, une autre vision et qui est vraiment commune et qu'on a mis en place seulement depuis qu'on est fiancés, ce sont les camps pour adolescents et les camps pour jeunes. Avec la vision permettre aux ados et aux jeunes des églises de vivre un temps à part avec Dieu pendant les temps de vacances et les week-ends prolongés. Et c'est quelque chose qui m'a marqué en arrivant au Sénégal, c'est qu'il n'y a absolument rien pour la jeunesse. Et souvent la réunion de jeunes, ça va être juste une prédication, il y a rarement des sorties. Et au niveau du Sénégal, il y a un camp qui est organisé chaque année. Et en général, ils arrivent, ils sont 100, 150, il n'y a pas vraiment d'animateurs, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ça a résonné dans mon cœur, et puis avec Alex, on en a partagé, et lui aussi, il avait un fardeau pour ça. Et puis finalement, c'est en été 2009, ça, oui. Dieu a permis qu'il y ait 3 personnes qui viennent nous rejoindre sur la mission, 3 Françaises qui étaient là pour quelques semaines, dont une qui avait le BAFA, et je dis, écoute, est-ce que ça ne t'intéresse pas qu'on fasse un peu un camp de test cet été pour 5 jours? Donc on a juste sélectionné quelques jeunes. On s'y est pris un peu tard, donc on a eu une 20aine de jeunes, et ça a été un succès fou. Et puis, donc le matin, on avait un temps d'enseignement, un temps de jeu, l'après-midi, on avait des grandes activités, le soir, un petit temps spi autour du feu, dehors, et c'était vraiment super. Et tous les jeunes ont redemandé. Alors on a dit, cette année, on n'est pas là, on part se marier en France. Mais c'est vraiment un de nos objectifs pour l'année, on va essayer sur les week-ends longs, sur les vacances scolaires, et principalement sur juillet-août, on va essayer d'organiser des camps comme ça. Si vous avez envie de travailler dans des camps de jeunes et que vous êtes prêt à venir bénévolement et à payer votre billet d'avion, on recrute des monos pour l'été. C'est un peu l'idée. Et donc, dans les programmes en général, développer sa relation personnelle avec Dieu, découvrir son potentiel, ses dons, ses talents, apprendre à servir là où on est. Et puis, apprendre à connaître d'autres jeunes dans la communauté chrétienne, parce que les églises, souvent, sont un peu fermées sur elles-mêmes. Donc, on ne connaît que les jeunes de son église. Et du coup, dès qu'on veut connaître du monde, comme l'église n'est pas très grande, eh ben, on est très vite dans des réseaux avec des non-chrétiens, des animistes ou des musulmans. Donc, c'est aussi notre vision que les chrétiens, les jeunes, puissent se connaître entre eux. Et ce qui est quand même pas mal, on ne veut pas être des marieurs, mais il y a tellement de monde dans l'église, comme il n'y a personne dans l'église, eh ben, ils prennent en dehors, et d'un sens, c'est dommage. Parce qu'il y a d'autres personnes dans d'autres églises qui sont là aussi et ils ne se connaissent pas. Donc ça fait un petit peu partie de tout ce qu'on veut créer dans la jeunesse, en tout cas autour de chez nous, dans un rayon de 50 km. On n'a pas la vision pour tout le Sénégal encore, parce qu'on commence. Et donc le bâtiment principal que vous voyez en haut à gauche et le puits et tout ça, ça c'est la vue qu'on aura depuis notre future maison. Donc c'est sur notre centre. Donc en haut à droite, ça c'était une petite chambre qui était là, donc en haut du terrain, qui va nous servir de chambre. Et puis à droite, on a fait un agrandissement depuis le mois de janvier. Il y avait une équipe qui était venue de Rouen. On a rajouté une pièce de 6 sur 6. Donc on peut voir en bas, là il y a les murs qui commencent à être levés. Donc normalement, quand on rentre, on a les murs, on a le toit et on a les portes et les fenêtres. Et après, donc ça sera à nous de nous installer, de faire les peintures et tout et tout. Voilà, comme on commence la vie à deux.
L'église locale, c'est mon église Kerdiam, c'est-à-dire maison de paix en Wolof, implication dans l'équipe de louanges. Je suis responsable du groupe de louanges qui chante, je suis complètement à droite avec mon clavier et mon micro. Bon, nous avons aussi une autre vision, les chantres unis du Sénégal, c'est-à-dire on est en train de voir comment former une chorale inter-église. Parce que cette chorale inter-église va nous permettre d'être encore plus forts. Parce qu'on est chrétien, mais on ne représente même pas 1% de la population du Sénégal. Ce qui fait que si chacun veut travailler à son côté, on n'aura pas de force. Mais si on se réunit tout ensemble, on aura plus de force pour faire face. On a un peu démarré, on a fini les statuts. Il suffit juste maintenant de monter le bureau et de commencer. Ça va vraiment aider dans la formation à Dakar en tant que tel. Parce que je le disais, il y a beaucoup de musiciens nigériens, congolais qui sont là et qui veulent donner quelque chose, mais il n'y en a pas au fait. Ils ne connaissent pas les autres églises. Donc pour nous, à travers cette chorale, on pourra nous connaître, faire des inter-échanges, faire des ateliers et faire une chorale qui, dans le pays, sera reconnue et on pourra au moins se donner un peu de voix. Ouais.
Voilà, un peu pour finir, les défis et les sujets de prière. Donc, les relations avec les églises locales. Notamment, bon, Alex a déjà pas mal de relations sur Dakar. Après, moi, c'est vrai que c'était limité, pas justement parce qu'on est à 50 km et on est dans une base qui est assez reculée. Mais ça va être vraiment un de nos objectifs à travailler, de prendre vraiment contact avec les pasteurs, de parler de nos projets au niveau de la musique et de la louange, principalement. Des personnes avec qui travailler, des partenaires et des locaux. Donc, quand on est dans la mission, il y a souvent des gens qui viennent par intérêt parce qu'ils pensent que s'ils aident et ils travaillent, ils pourront avoir un financement. Et en fait, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc on a souvent des gens qui sont très motivés au début et puis qui repartent vite parce que ce n'est pas vraiment ce qu'ils espéraient. Mais que Dieu nous donne la sagesse aussi de savoir avec qui travailler et comment subvenir à ces personnes. Et puis, ouais, comme disait Alex, on voudrait surtout travailler avec des locaux parce que c'est là qu'on peut vraiment changer la nation. Après, un autre défi, c'est d'avoir l'eau et l'électricité sur le centre, ce qui veut dire qu'on ne l'a pas encore. Donc tout à l'heure, sur les photos, il y avait le puits, donc voilà, il est en bas de chez nous maintenant. Donc l'eau n'est pas très loin, et puis l'électricité, on a un des bâtiments qui a de l'éclairage le soir avec une plaque solaire, qui charge pendant la journée, mais tous les autres bâtiments, sinon on est à la bougie ou à la lampe à gaz. Et en fait, on ne peut pas directement se relier à Sénélec, qui est l'équivalent de l'EDF, parce que le courant s'arrête à 700 mètres de chez nous, et sinon c'est nous qui devons payer tout le système. Donc du coup, on est en train de voir si c'est pas mieux d'installer directement une éolienne. Mais un jour on entend ça, l'autre jour on entend ça, et finalement on n'arrive pas à avoir une personne qui clairement peut nous dire non, ce dont vous avez besoin, c'est ça. Donc du coup on est toujours en train un peu d'hésiter, et on a vraiment besoin de la prière et du discernement pour savoir quoi faire sur la durée. Après, un gros sujet de prière, c'est donc tous les projets au niveau de la musique, parce que là c'est vraiment du démarrage. Et Alex a parlé un peu des stages de musique qu'il avait fait avant. Et donc on a un couple qui est en Suisse, qui avait monté une petite école de musique et qui a décidé que tout le matériel qu'ils avaient laissé au Sénégal allait revenir à Alex. Donc c'était une grande bénédiction pour nous. On va commencer avec quelques claviers, et puis il nous a donné par clé USB tout son travail qu'il a fait au Sénégal pendant 2 à 4 ans. Et donc là on part déjà avec des portes grandes ouvertes, ça nous simplifie beaucoup. Et puis après on a mis les finances et principalement les partenaires financiers. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'ambassade du Japon. C'est vraiment des portes que Dieu ouvre d'une manière incroyable. On se demande même encore comment ça a pu se passer. Mais que Dieu continue à nous donner des partenaires comme ça qui veulent investir sur la mission. Et, ou même le jour où nous on quitte, et ben ces personnes-là vont continuer à soutenir la mission et les personnes qui seront là après. Voilà. Et puis être actif avec nous. Donc on a toujours les écoles de disciples. Si vous avez à cœur de faire aussi une école de disciples. On commence au mois de janvier. Et le prix est de 850 euros pour les Européens, plus votre billet d'avion. On est moins cher que la France. Et puis on a des écoles de louanges, donc la prochaine sera en septembre 2011. Après, pour le court terme, comme je disais, on va essayer de mettre en place des camps d'ados et de jeunes sur juillet-août 2011. Après, si vous travaillez dans la santé et que vous avez 2 semaines de congé et que vous ne savez pas quoi faire et que vous avez votre billet d'avion, vous pouvez venir travailler aussi au poste de santé. Et puis main d'œuvre et construction, toute l'année aussi on peut accueillir du monde sauf au mois d'août. Et puis à distance, bien sûr, recevoir la lettre de nouvelles, donc on va rester en contact. S'engager à prier comme individu et comme église, et ça je sais que vous le faites déjà aussi. Et puis être un partenaire financier, ça je sais que l'église l'est déjà aussi. Voilà. Et puis à bientôt, au Sénégal. L'adresse mail pour ceux qui voudraient noter ou recevoir la lettre de nouvelles en dehors des communications de l'église. Et je pense que plus ça va, plus c'est un de mes versets préférés dans la Bible. Enfin, 2 versets préférés. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et c'est intéressant de voir que ça parle d'armes, ça parle de combat. Et ça parle de renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et tout à l'heure, je donnais le témoignage que dans ma vie, c'était un blocage finalement d'avoir une mauvaise connaissance de Dieu. Et l'encouragement qu'on veut simplement donner pour cette année, c'est il faut renverser nos raisonnements. On pense que notre pensée est bonne et que les autres, après, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais il faut toujours être dans cette perspective d'être prêt à se remettre en question et d'avoir une pensée renouvelée. Et une façon de le faire au niveau, je dirais, plus du comportement, en tout cas c'est ce qu'on essaye de vivre dans la mission, ça revient sur Galates 5, verset 22. Comment renverser les raisonnements? Comment renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? Je ne suis pas une théologienne, hein, je partage ce qui est sur mon cœur. Vous ferez l'analyse après. C'est quand il parle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et que ça puisse être vos armes cette année, dans les situations difficiles, de voir la joie en Dieu, de trouver la joie en Dieu. Que dans les situations où peut-être d'autres vont être durs avec vous, que ce soit dans les études ou dans le travail, de rester affermi dans l'amour de Dieu et de pouvoir transpirer de cet amour. C'est pas évident. Si on essaye avec nos forces humaines, on peut pas. Mais puiser cet amour en Dieu, que ce soit vraiment votre arme. Qu'avec tout ce qu'on entend aux informations sur les guerres, sur les crises, que vous puissiez garder la paix dans le cœur et de savoir que c'est Dieu qui donne vraiment cette paix et que lui, il est au-dessus de tout. Qui contrôle tout et que notre assurance, elle est en lui. Elle n'est pas dans les placements, elle n'est pas dans le travail, elle n'est pas dans les finances. Elle est en lui. Gardez cette paix. Gardez la patience. S'il y a des promesses qui sont sur vos vies, et que vous ne voyez pas encore s'accomplir. Que Dieu vous accorde sa patience pour cette année. Et que sa bonté soit sur vous aussi, dans tout un peu ce courant-là qui est en France, où les gens gardent tout pour eux. Que Dieu continue à renouveler sa bonté sur vos vies et que sa bonté transpire et soit toujours tout autour de vous aussi, au travers de la générosité, la bienveillance, la fidélité. Que Dieu bénisse vos familles aussi et vous bénisse en tant qu'individu. Et qu'il puisse vous amener vraiment à avoir ce témoignage de fidélité, même si d'autres trouvent que ce n'est pas normal. Eh bien, c'est normal. Les autres qui ne sont pas vraiment normaux, avec un peu toutes ces nouvelles idées qui viennent. La normalité, elle est en Jésus. Et la normalité, c'est la fidélité. Et s'il y a la pression sur vos vies, que Dieu vous fasse connaître sa douceur et que ce soit la douceur qui vous fasse réagir dans les circonstances. Et que vous puissiez avoir la maîtrise de soi en toutes circonstances aussi. Ça, c'est très difficile. Mais vraiment, s'il y a des situations où il y a la pression, je veux vraiment prier que la bénédiction de Dieu soit sur vous, qu'il vous accorde la maîtrise de soi, qu'il vous accorde la douceur. Et rappelez-vous que ça, ce sont des armes. C'est vrai que des fois, on va penser, l'arme, c'est de prier, l'arme, c'est de crier, c'est de pleurer, c'est d'intercéder. C'est vrai aussi. L'arme, c'est de témoigner, c'est vrai aussi, c'est de prêcher. Mais c'est aussi de vivre la joie, l'amour, la paix, la bonté au quotidien et d'avoir une vision renouvelée de Dieu. Et c'est comme ça que notre raisonnement et la connaissance de Dieu, elle est là dans nos vies et nos raisonnements y changent. Et que vraiment nos raisonnements ensemble puissent être encore changés cette année et que la connaissance de Dieu puisse grandir. Et le royaume de Dieu grandira dans nos vies et dans l'Église ici, en France, au Sénégal. En France, on parle souvent ces derniers temps un peu de la pression islamiste, de la montée de l'islam, avec Kadhafi qui a fait son discours à Rome aussi, on craint pour l'Europe. Samuel disait encore, je crois, hier, tu as vu les derniers chiffres, c'était 10% de musulmans, apparemment, en France. C'est assez impressionnant. Mais que dans tout ça, Dieu vous donne les bonnes armes pour combattre aussi. On est ensemble, on est dans des pays différents. Mais une petite note personnelle, il ne faut pas avoir peur des musulmans. Soyez amis avec des musulmans. Et ce qu'on peut voir au Sénégal, en tout cas, c'est que le musulman, s'il se convertit, il n'a plus rien. Il n'a plus d'amis, il n'a plus de famille, des fois il n'a plus de travail. Ce n'est pas évident à gérer comme situation. Et si on n'est pas ses amis, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il accepte Jésus. Et je pense que c'est la même chose en France. Le musulman qui se convertit, c'est vrai, il est accueilli dans l'église, mais il perd tout son réseau social. Et cherchez à être ami avec des musulmans. Voilà. Et peut-être, je ne sais pas si on a encore 5 minutes, on peut finir un petit peu pour un temps de prière. Priez vraiment pour que Dieu nous donne un cœur aussi pour ce peuple-là. Souvent, ils font peur. On n'a pas trop envie de les aborder. On les prend un peu pour un peuple agressif, mais que Dieu nous donne vraiment sa compassion et nous donne ses armes-là pour eux aussi. Amour, joie, patience, paix, bonté. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux présider ce moment.
Alex, tu peux venir devant. On va prier pour la situation au Sénégal, mais aussi en France, parce que nous sommes liés et les mêmes problèmes nous atteignent. Nous sommes aussi moins de 1% de chrétiens en France, évangéliques, et on a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour Alex et Claudine qui nous ont partagé sur ces projets, qui nous ont partagé, Seigneur, leur vision aussi. Et Seigneur, tu vois les besoins au Sénégal. Nous te prions, Seigneur, afin que tu les utilises comme tu l'as déjà fait. Mais Seigneur, avec vraiment ta puissance et ta grâce que tu déploies sur eux pour développer ces projets, Seigneur, qui viennent de ton cœur. Merci Seigneur pour ce désir d'Alex d'apporter, Seigneur, cette personnalisation dans la louange et dans les chants et dans l'identité, Seigneur, nationale aussi, de ce peuple du Sénégal. Seigneur, merci de le bénir et de le revêtir de ton autorité, qui n'est pas un autoritarisme, mais Seigneur, qui s'est rempli de compréhension, d'amour, de patience et de tout ce que Galates 5, 22 nous dit. Seigneur, tu bénis aussi Claudine et tu lui donnes, Seigneur, d'être vraiment un fer de lance dans ce pays. Et Seigneur, vraiment d'être utilisé par toi pour glorifier ton nom. Seigneur, tu les utilises tous les deux, Seigneur, en tant que couple. Tu leur donnes ce projet de vie que tu leur as donné, Seigneur, pour ce pays. Et tu les revêts, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. Que tu leur donnes aussi, en effet, de contacter ces musulmans par l'amitié, Seigneur, afin qu'ils puissent faire naître cette relation, Seigneur, de confiance, afin qu'ils puissent se livrer, Seigneur, de tout leur cœur et s'ouvrir à ton amour. Seigneur, merci de développer, Seigneur, toutes ces choses dans leur cœur et de leur accorder ta grâce. Seigneur, nous les remettons entre tes mains et te remercions pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont pour nous, mais pour toi, pour ton royaume. Seigneur, merci de les garder en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen.